Chapitre 28. Alors peut-être vous avez remarqué, il y a quelques jours, nous avons fêté le solstice d'été. C'est un moment astronomique. En fait, la vérité, je ne comprends rien là-dedans, mais c'est lié à la Terre, le Soleil, l'angle de la Terre, la longueur de la journée. C'est quelque chose de ce genre. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le jour était plus long le 21 juin. Alors magnifique, n'est-ce pas? Mais peut-être vous savez que chaque année dans le sud d'Angleterre, il y a une veillée à Stonehenge. C'est un endroit où il y a des anciens rochers rassemblés. Et chaque année, il y a des milliers d'hippies et druides et bien d'autres personnes, parfois un peu étranges, qui se rassemblent parce que c'est un moment important de l'année pour eux. Apparemment, en Australie, à Hobart, là où c'est bien sûr le solstice d'hiver et non pas le solstice d'été, il y a eu 1537 participants à la baignade nue. C'est-à-dire qu'ils ont plongé dans l'eau au son des tambours et des cymbales joués par la communauté bouddhiste ésotérique du Saint-Tantra de Tasmanie. Magnifique, ou pas? C'est une manifestation, chers amis, d'une spiritualité païenne qui est souvent la racine de ces différentes activités. Un désir, dit-on, de se reconnecter à la nature et aux forces spirituelles qui s'y trouvent. Si d'un côté notre société occidentale est devenue matérialiste, ce qui est le cas, cela a laissé la porte ouverte à d'autres spiritualités alternative. Et donc, je pense que c'est rare ici à l'église de Woolway que nous mentionnons les pratiques telles que les cartes de tarot, ou les voyants, ou la sorcellerie, ou la divination, ou même la nécromancie, c'est-à-dire d'appeler les morts pour leur en parler. Mais ces choses existent, oui, il y a bien sûr des charlatans, ceux qui n'ont pas du tout de l'expertise dans ce domaine, mais qui font croire aux autres qui sont qualifiés. Mais en même temps, il y a ceux qui sont des vrais voyants, nécromanciers, etc. Et je pense pour certains d'entre nous, surtout peut-être ceux qui viennent plus d'Afrique qu'Occident, ces pratiques ne seront pas simplement théoriques. Nous, on peut se moquer un peu de ça. On peut penser que ça n'a pas d'importance, mais d'autres qui ont connu ces choses de près savent que ces pratiques peuvent avoir un impact très conséquent sur leurs proches. Et donc c'est important, je pense, que nous prenons conscience dans ce chapitre de 1 Samuel 28 que toute spiritualité qui se trouve sur le marché aujourd'hui n'est pas forcément une bonne spiritualité à poursuivre. Car dans ce passage, chapitre 28, nous voyons le roi d'Israël, Saül, celui chargé par le Dieu d'Israël de se soumettre à la loi de Dieu et de diriger le peuple de Dieu selon la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Nous voyons ce roi en train de consulter lui-même une femme qui évoque les morts, une nécromancienne. Comment cela se fait-il? Alors pour commencer, nous allons nous situer un peu dans ce chapitre, parce que nous sommes à la fin d'un Samuel, presque après une longue série, n'est-ce pas, dans ce livre. Depuis le chapitre 18, nous suivons Saül et David et les deux trajectoires opposées qu'ils poursuivent. Saül qui se bat pour préserver son royaume et David qui fait tout pour sa propre survie. Et ces deux trajectoires se poursuivent avec l'arrière-plan des menaces qu'il y a des Philistins. Et nous n'avons pas lu ensemble le chapitre 27, mais lors du chapitre 27, à la grande surprise de celui qui continue à lire, David va vers les Philistins. Il y va pour trouver refuge de Saül, et en apprenant cette nouvelle, Saül, effectivement, il cesse sa poursuite de David à ce moment-là. Mais David joue tellement bien son rôle chez les Philistins que Achish, qui est le roi de Gath, c'est l'une des villes principales des Philistins, cet Achish, il apprécie et il aime David tant qu'il veut l'engager pour assister les Philistins dans la guerre imminente contre Israël. Et le comportement de David au chapitre 27 n'est pas facile à comprendre. Et c'est pour ça qu'on a sauté ce chapitre, parce qu'on demande où est l'intérêt de David d'être engagé, comme ça semble être le cas, dans l'armée des Philistins. C'est difficile. David se trouve, si vous voulez, un peu coincé par son propre zèle, son propre talent militaire. Et comment est-ce qu'il s'en sortira? Au chapitre 29, le chapitre après celui-ci, c'est les chefs de l'armée des Philistins qui réussissent à persuader le roi de Gath, Achish, de renvoyer David du front, de peur que David s'alignera contre les Philistins lors de la bataille. Cette décision semble vexer David. Avait-il un plan secret pour venir de délivrer le peuple d'Israël des Philistins lors de la bataille? C'est bien ça que craignent les responsables des Philistins. Et donc, nous voyons dans ces chapitres autour, 27 et 29, Dieu souverainement à l'œuvre qui intervient pour prendre soin de celui qu'il a désigné à être son roi après Saül. Et donc, ce qui se passe maintenant au chapitre 28 met en relief, je pense, la difficulté qu'expérimente Saül ici. Car chapitre 28 se trouve au milieu de ce récit de David chez les Philistins. Oui, David donc a ses problèmes, mais le Seigneur agit pour qu'il s'en sorte. Mais au moment où Saül ressent le besoin de l'aide de Dieu face à la guerre imminente contre les Philistins, Saül se trouve tout seul. Seul dans quel sens? Chapitre 28, verset 5. Quand Saül vit le camp des Philistins, il eut peur, son cœur trembla beaucoup. Saül interrogea le Seigneur, et le Seigneur ne lui répondit pas, ni par les rêves, ni par l'urim, ni par les prophètes. Le Seigneur est silencieux à son égard. Au verset 15, c'est bien ça ce que Saül dit à Samuel. « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est éloigné de moi. Il ne m'a répondu ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par des rêves. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses savoir ce que je dois faire. » Donc, dès cette partie du livre, c'est un peu le crescendo de l'histoire de Saül, si on veut. C'est la dernière bataille qu'il prépare avec les Philistins. Fin du chapitre 31, il sera mort lors de cette bataille, lui et ses fils. Et donc, c'est un moment critique. Il cherche le Seigneur, mais le Seigneur ne l'écoute pas. Nous venons de chanter, n'est-ce pas? « Je m'appuie sur ta parole et tes promesses. » Saül cherche la parole de Dieu pour qu'il puisse s'appuyer là-dessus, mais il n'a pas de réponse. Que fait-il donc? Il brise toutes les lois d'Israël, il tente sa chance avec la divination. Verset 7, « Cherche-moi une femme qui évoque les morts. À Endor, il y en a une, lui disent-ils. » Ce qui signifie probablement que cette pratique se faisait en Israël. Déguisé, et pendant la nuit, donc, Saül se présente devant cette voyante, cette femme. Elle est réticente, verset 9, n'est-ce pas? Elle est suspicieuse d'une ruse. Peut-être c'est le fait que Saül arrive avec deux hommes, sans doute ces hommes, dans leur façon d'accompagner Saül, font croire à la dame qu'il s'agit d'un homme haut placé dans le pays. Saül lui fait serment par le Seigneur de ne pas amener le trouble sur cette dame. Et donc, voyons, on imagine la détresse dans les yeux de Saül, elle procède avec sa magie noire. Quelle ironie, n'est-ce pas? Que Saül fait serment par le Seigneur, tout en faisant ce que le Seigneur proscrit. Ce n'est pas le dernier de faire cela. Qui veux-tu que je fasse monter, dit-elle. Saül demande Samuel. À ce moment-là, est-ce qu'elle sait la femme de quel Samuel il est question? C'est pas certain. Mais à l'apparence de Samuel, celui qui avait la tâche à Samuel, prophétique, d'appeler le peuple et le roi de mettre en vigueur la loi de Dieu, alors là, la voyante pousse un grand cri. Est-ce parce que, comme certains disent, que d'habitude les soi-disant apparences de cette femme n'étaient que de l'escroquerie? Tandis que cette fois-ci, de manière inattendue, ça marche, il y a une réelle apparence de Samuel? C'est pas certain que ça soit le cas. Je pense que c'est probable que son cri s'attache plus à l'identité de son visiteur, Saül. Car si c'est le prophète Samuel qui se manifeste, alors cela ouvre ses yeux par rapport à ce visiteur mystérieux. C'est comme si elle fait 1 plus 1, ça égale 1. C'est Saül. Et donc, Saül lui dit, n'aie pas peur. Verset 13. Celui qui, lui, tremblait de peur, au verset 5, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que Samuel parle à Saül. Le récit semble présenter Samuel comme étant un personnage authentique. C'est le vrai Samuel qui se manifeste. Comment cela se fait-il donc qu'il se manifeste? À travers une pratique proscrite dans la loi de Dieu. Ben, ce n'est pas à cause de la femme, de la voyante. Mais de manière tout à fait exceptionnelle, c'est par la puissance et la permission de Dieu lui-même. Le récit ne s'y trouve pas pour qu'on dise « Ah, vous voyez, ça marche la nécromancie, on doit essayer ça de temps en temps. » Non, cela s'y trouve comme signe de désobéissance de Saül, confirmation de son jugement imminent. Car Samuel, lorsqu'il parle, ne fait que répéter ce qu'il a déjà dit par le passé, que Saül, suite à sa désobéissance à la parole de Dieu, ne sera plus le roi, que le trône passera à David. Mais il ajoute que les Israélites seront livrés aux Philistins et que Saül et ses fils seront avec Samuel, c'est-à-dire qu'ils seront morts demain. Et donc à cette nouvelle, Saül est accablé. L'homme qui était très grand et imposant de vue se trouve aplati et sans force. Au verset 5, Saül avait peur, n'est-ce pas? Mais au verset 20, il a très peur. La voyante est pitié de lui. Oh, quelle humiliation pour le roi d'Israël d'être réconforté par quelqu'un qui aurait dû être mis à mort pour ses pratiques. Elle lui prépare à manger. C'est un bon repas, un repas spécial, un repas digne d'un roi. Mais celui qui mangeait ce repas n'était plus digne du titre du roi. C'est une scène donc pathétique à la fin, désespérante. Voici donc l'histoire, hein, je viens de le répéter en quelque sorte. Mais comment tirer des leçons de cette histoire? J'aimerais vous proposer trois leçons. Trois leçons pour nous ce matin. D'abord, la tragédie frappe lorsque Dieu ne nous parle plus. La tragédie frappe lorsque Dieu ne nous parle plus. Nous l'avons vu, le cœur du problème de Saül, c'est que Dieu, le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, ne lui parle plus. Il y a silence. Lorsque Saül fait appel à Dieu, Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Verset 18. Puisque tu n'as pas écouté le Seigneur et que tu n'as pas traité Amalek selon sa colère ardente, le Seigneur te traite ainsi en ce jour. Saül avait pris la parole de Dieu à la légère lorsqu'il était roi. Et par conséquent, Dieu s'est retiré de lui. Et donc, aujourd'hui, pour Saül, il n'y a aucun espoir. Agir avec du mépris vis-à-vis de Dieu, et Dieu se retirera de nous. Vous savez, il y a un chapitre dans le Nouveau Testament qui explique cela de manière plus conséquente. Il s'agit de Romains chapitre 1. Qui dit ceci, le plus que nous désobéissons à Dieu, le plus que Dieu nous livre à notre désobéissance, notre péché. Il nous livre, Dieu, à ce qu'on veut. Donc, si nous cherchons une vie sans Dieu, Dieu, ultimement, nous livrera à cela. C'est dans ce sens, je pense, que nous pouvons dire que le jugement de Dieu, sa condamnation finale, c'est une réalisation de ce que nous avons, en quelque sorte, cherché ici-bas. Parce que si nous cherchons une vie sans Dieu, que voulons-nous lorsque nous disons cela aujourd'hui? Une vie sans Dieu promet la liberté d'expression, liberté de choix, liberté de tout dogme. Ça promet un monde où je peux définir ce qui est bien, ce qui est mal. Je peux définir ça moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu. Une vie sans Dieu promet une jouissance dans tout ce qui me semble bon à mes yeux, sans qu'il y ait quelqu'un pour m'empêcher. Et donc, une vie sans Dieu, si nous voulons une telle vie, Dieu nous livrera à cela. C'est une trajectoire d'une vie sans Dieu qui nous mène à la séparation définitive entre l'homme et Dieu. Une séparation éternelle. Sans Dieu, alors sans espérance dans ce monde. Parce que la réalité ultime d'un monde sans Dieu, c'est un monde où Dieu enlève tout ce qui vient de lui. L'amitié, la joie, le plaisir, la beauté, l'amour, la créativité, la culture même. Et ce n'est qu'à ce moment-là, chers amis, qu'on se rendra compte à quel point une vie sans Dieu est véritablement une vie sans espérance. Et à ce moment-là, nous dit la Bible, ce serait trop tard pour faire marche arrière. On sera incapable de se tourner à Dieu, attaché pour toujours, désespérément, à notre péché. C'était le cas de Saül. Ce serait le cas pour chacun qui continue à tourner le dos à Dieu et ce que Dieu demande de nous. Donc il faut se repentir avant qu'il soit trop tard. Il y a une raison légitime, je pense, que nous doutons de ce qu'on appelle une confession sur le lit de mort. Oui, cela peut arriver, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est peu probable que cela arrive. Parce que cela a l'air, pour certains, d'être la meilleure option, n'est-ce pas? De profiter de la vie aujourd'hui sans Dieu, et ensuite de se repentir vers Dieu, tout à la fin. Non, après une vie vécue à l'encontre de la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur s'endurcit à Dieu. Dieu nous livre à ce que nous avons espéré. Et ce passage donc nous indique qu'il serait peut-être trop tard de se tourner vers le Seigneur. Au moment où nous le souhaitons le faire, Dieu nous livre à notre péché. Donc, si vous entendez aujourd'hui sa voix, c'est ça ce qui se fait aujourd'hui. Nous entendons sa voix dans sa parole. Si vous entendez sa voix par sa grâce dans sa parole, c'est pas encore trop tard pour vous. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Il faut se tourner vers Dieu. Mais si nous continuons à ignorer Dieu, à vivre sans Dieu, alors ce serait éventuellement trop tard la prochaine fois pour nous. Donc ce n'est pas l'église, si vous voulez, l'écoute de la parole de Dieu, ce n'est pas un petit jeu religieux, vous savez, sans conséquence. Non, l'église, le dimanche matin, la parole de Dieu ouverte est suprêmement importante. Que notre destin en dépend. Première leçon, donc, la tragédie qui frappe lorsque Dieu ne nous parle plus. Deuxième leçon, le danger que constitue un leader hypocrite. Et évidemment, dans ce texte, Saül est terriblement hypocrite, n'est-ce pas? Verset 3 nous dit que c'est Saül, sous la guidance de Samuel, qui avait supprimé du pays les spirites il est médium. Il a bien fait. La loi de Dieu exigeait cela. Lévitique 20, verset 6, dit ceci. Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts ou vers ceux qui président l'avenir, prédisent pardon, l'avenir pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. Verset 27 du Lévitique 20, même chapitre. Si un homme et une femme ont en eux le pouvoir d'invoquer les morts ou de prédire l'avenir, ils seront punis de mort. On les lapidera. Le sang retombera sur eux. Mais donc, Saül a mis en place cette parole, cette loi en Israël, et maintenant il fait autrement. Les questions de « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Non, pire, il fait semblant de respecter la loi, n'est-ce pas? Mais en dessous, pendant la nuit, il brise cette loi lui-même. C'est la tentation pour beaucoup de personnes, vous savez, haut placées dans la société. Ils ont une place et un pouvoir qui leur permet de croire qu'ils sont un peu au-dessus des règles qui doivent régenter les masses. Que cela soit la prise de drogue illégale de la part des grands sportifs, que ce soit la gestion sans transparence des sociétés, des ASBL telles que Publifond et SAMU Social, que ce soit des activités illégales, commerciales pour chercher les avantages chez les rivaux. Ces choses arrivent dans ce monde. Et si nos dirigeants ne respectent pas les lois eux-mêmes qu'ils ont mis en place, alors nous ne sommes pas loin du déchirement du système de justice dans ce pays, n'est-ce pas, dans notre société. Si cela est le cas dans la société, ben il reste aussi un principe en vigueur dans l'Église. Un leader chrétien qui proclame la fidélité de Dieu tout en pratiquant dans sa vie l'infidélité, ben ça tue la réputation de l'Église. Un responsable d'ado, quelqu'un m'en a parlé cette semaine, qui publiquement auprès des ados recommande l'évangile de Christ, mais qui vit en privé de manière à nier le Christ, ben ça brise la confiance de toute une génération d'adolescents. Un responsable qui exhorte ses fidèles à être sacrificiels dans leur façon de contribuer financièrement aux besoins du peuple de Dieu, mais qui s'enrichit lui-même de la générosité, est hypocrite. Nombreux sont ceux qui ont quitté leur église pour cause d'hypocrisie chez l'un des responsables. Oui, dans un sens, nous sommes tous hypocrites. Personne n'est parfaite à tous égards. Mais ici, il ne s'agit pas de toutes les petites choses que nous pouvons observer. Il s'agit d'être irréprochable. Que quelqu'un ne peut pas nous voir de l'extérieur et dire tout de suite « Ha ! Ça ne va pas chez vous. » Vivre ainsi crée du dégât, tôt ou tard. C'était le cas pour Saül. Prions donc pour des leaders, des responsables, qui sont intègres, qui sont dignes de confiance. Si nous sommes consacrés une tâche, un ministère au sein d'une église, soyons des personnes intègres, dignes de confiance. Encourageons-nous les uns les autres de ne pas poursuivre la voie de l'hypocrisie, chers amis, au sein de l'Église. Troisième et dernière leçon, le désir d'un Dieu qui soit conforme à notre volonté à nous. Le problème, vous voyez, de Saül, c'est qu'il n'arrivait pas à accepter que Dieu détourne son regard de Saül à David. Pour Saül, il n'arrive pas à accepter que Dieu devienne silencieux à son égard, Saül. Dieu, vous voyez, pour Saül, doit être conforme à sa volonté à lui. Dieu est là pour cela, selon Saül. Et si Saül n'arrive pas à avoir le Dieu d'Israël à ses côtés, ben, il est prêt à faire le nécessaire pour chercher ailleurs. C'est ça ce qu'il faut. Et ça explique ça, sa visite chez la voyante. Si cela représente sa meilleure chance de retrouver la divinité de son côté, alors allons-y. C'est triste quand cela révèle à quel point Saül ne comprend pas le Dieu de la Bible. Il croit que Dieu existe pour servir Saül. Que tout doit tourner autour de Saül. Dieu doit tourner autour de Saül et ce que Saül cherche dans sa vie. Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu souverain autour de tout l'univers. Il est au centre, Dieu, de son univers. C'est lui qui règne. C'est lui qui est saint. C'est lui qui est là pour que nous adorions le Seigneur. Pour que nous obéissions au Seigneur. Pour que nous nous aimions le Seigneur. Pour que nous nous craignions le Seigneur. Pour que nous servions le Seigneur. Traiter Dieu comme un Dieu qui existe pour que moi j'ai ce que je veux, c'est de remplacer Dieu au centre de l'univers avec moi-même. Avec moi-même. Et c'est de l'idolâtrie, vous savez cela. Adorer quelqu'un d'autre que celui qui mérite notre adoration. Quelle leçon importante à apprendre encore pour nous ce matin, chers amis. Au lieu d'obéir Dieu, nous pouvons être présents à l'Église parce que nous cherchons un Dieu qui se plie à notre volonté, à nous. Je suis à l'Église pour vous, disons-nous, peut-être pas à haute voix, pourvu que tu me donnes ce que je cherche. Je suis bien avec toi, Dieu. Je cherche un conjoint, par exemple. Donne-moi cela et tu t'iras bien. Je serai fidèle à toi, Seigneur, si tu me donnes ce conjoint chrétien que je cherche. Je cherche un travail stable et bien rémunéré. Cela me suffira. Alors, à ce moment-là, je mettrai ma confiance encore en toi. J'aimerais une retraite confortable, des comptes en banque suffisamment dans le noir, de bonnes notes lors de mes examens, un stage intéressant. Donne-moi tout cela, Seigneur. Et bien sûr, je chanterai tes louanges. Je veux réussir, point de vue artistique, point de vue sportif. Je cherche une famille qui m'aime. Je cherche une santé qui est stable pour de longues années. Donne-moi ça, il n'y a pas de souci, je serai là, à l'Église, pour de longues années. Pourvu que Dieu prenne bien soin de moi, je serai content de croire en lui. Venir à l'Église dans ce cas, oui, je peux le faire. Mais s'il ne me donne pas ce que je veux, alors je vais chercher ailleurs. Si tel est votre Dieu, Dieu avec des minuscules, bien entendu, alors ce passage nous appelle à nous repentir. Car Dieu n'est pas là pour rendre plus grand votre ego, vous savez. Votre ego est suffisamment grand déjà. Il est là pour que nous comprenions que nous sommes appelés à adorer notre Dieu, à plaider grâce à ses pieds. Mieux vaut comprendre cela maintenant, chers amis, que de terminer le jour comme Saül, toujours aveugle dans notre idolâtrie. Le dernier verset dit que Saül et ses hommes partirent la nuit même. Ils s'approchaient pendant la nuit, ils partent et il fait toujours nuit. Oui, il faisait noir dehors, sûrement, c'est clair. Mais vous ne voyez pas une signification plus profonde également dans cette phrase? Il faisait noir. Saül se trouvait dans les ténèbres. Et cela nous renvoie vers notre conclusion. Car vous vous souvenez, il y avait un autre homme qui quittait un lieu de repas partagé pendant la nuit avec des amis, n'est-ce pas? Le texte de Jean 13 nous dit que Judas prit le morceau et sortit aussitôt, et il faisait nuit. Comme Saül, Judas est un homme sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais le lendemain de la trahison de Judas, il y avait un autre homme, pendu sur une croix, qui criait, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui aussi, il connaissait donc l'abandon de Dieu. Lui le Christ, Jésus. Il n'avait pas endurci son cœur contre le Seigneur, non. Dieu en Christ, à travers son Fils innocent, irréprochable à tous égards, est en train de réconcilier le monde avec lui-même. À la croix, Jésus prenait sur lui-même le jugement et la condamnation que nous avons mérité. Ce n'est que grâce à Jésus que nous pouvons connaître une espérance quant à notre avenir à long terme. Car oui, de nature, nous nous trouvons comme ceux qui sont sans Dieu, sans espérance dans ce monde. Mais Éphésiens chapitre 2, verset 13 continue. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Bon, avant de chanter ensemble, chers amis, ben, je vous invite, de quelques-uns d'entre nous, des courtes prières de remerciement envers le Seigneur, de repentance, d'exprimer notre dépendance de Dieu.